Quelle est la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens ? Oui, cette question peut paraître facile, mais elle est un petit peu plus compliquée que ça quand on y regarde bien. Il est toujours assez troublant de vivre dans une société occidentale où l'on essaie de construire sans Dieu, mais tout en gardant beaucoup de valeurs fondamentales de l'Évangile. Alors les chrétiens se posent la question : qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mauvais autour de nous ? Parfois, ça ressemble à des valeurs chrétiennes, mais ça n'en est pas. Parfois, ça ressemble à des valeurs chrétiennes, et ça en est. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mauvais autour de nous ? Les chrétiens sont très loin des persécutions subies au 1er siècle, ou des persécutions subies par les protestants au 17e siècle, ou les Chinois au 20e siècle. Les périls d'aujourd'hui pour les chrétiens n'ont pas l'air si terribles que ça. Et au premier abord, il n'y a pas de différence fondamentale entre une personne chrétienne et son voisin qui ne l'est pas. Ils disent tous les deux bonjour, merci, bonne année et bonne santé. Leur travail et leurs loisirs se ressemblent. Ils veulent t'aimer et être aimés en retour. Ils essaient de faire le bien autour d'eux, de respecter leurs contemporains, de bien élever leurs enfants, etc. Parfois, le non-chrétien est même bien plus aimable, plus joyeux et plus drôle que son voisin chrétien. Finalement, la seule chose qui les différencie, c'est que l'un croit que Jésus est le Fils de Dieu, il consacre quelques heures à lire la Bible, à aller à l'église, alors que l'autre a d'autres convictions et dispose de plus de temps pour lui-même. Pourquoi va-t-on à l'église tous les dimanches matins ? Pourquoi nous abstenons-nous de faire certaines choses et nous croyons-nous obligés d'en faire d'autres ? On pourrait faire la grasse mat le dimanche. On pourrait baisser nos exigences morales. Jésus a une méthode pour voir le vrai fond des gens, leur vraie face cachée. Et le passage d'aujourd'hui commence par cette phrase « Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui ». Des gens très bien donc, puisqu'ils ont mis leur foi en Jésus. Mais le passage se termine par, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Des gens, finalement, beaucoup moins bien. Jésus n'avait pas cette naïveté que nous avons souvent avec les non-chrétiens. Il ne se contentait pas de relations superficielles, mais il appuyait là où ça fait mal, pour mettre en évidence ce qui n'allait pas. Et je vous invite à lire un passage toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus fait face à une foule, une fois de plus, et il est dans le temple. Voici ce que dit Jésus dans Jean 8, 31. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, « Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, Vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, « Nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. »« Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous, vous me méprisez. »« Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même, c'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent, « Cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc ?» Jésus répondit, « Si je m'attribuais moi-même cette gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. » Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi ? Lui répondirent-ils alors ? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu et de cette conversation entre Jésus et la foule dans le temple. Durant cet échange, la tension monte de plus en plus. Regardons l'évolution des paroles de la foule et les réponses que Jésus lui apporte. Jésus commence par parler de parole, de vérité, de liberté. Et la foule rétorque, « Nous n'avons jamais été esclaves. » Jésus leur répond, « Vous êtes esclaves du péché et vous éprouvez de la haine envers moi parce que je fais la volonté de mon Père. Quant à vous, vous faites la volonté de votre Père. » Ce à quoi la foule rétorque, « Nous sommes les fils d'Abraham !» Et Jésus leur répond, « Vous ne faites pas comme Abraham, vous imitez votre père. » Et là la foule répond, « Nous sommes fils de Dieu !» Jésus répond, « Je viens de Dieu, je dis la vérité, et vous ne m'aimez pas. Votre père, c'est le diable, le père du mensonge. » Et là on lui répond, « Tu as un démon !» Jésus répond, « J'honore mon père. » Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra pas. » Et là, la foule répond toujours : « Tu as un démon. Tous les hommes de Dieu sont morts. » Et pourtant, ils ont obéi à la parole de Dieu. « Alors, qui es-tu ? » Jésus leur répond : « Je connais Dieu, je connais Abraham, et Abraham se réjouit de me voir sur terre. » Et là, la foule rigole et lui dit : « Bah, tu as moins de 50 ans et tu connais Abraham. » Et Jésus termine en disant : « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, la foule veut le lapider. Comme vous avez peut-être pu le constater, il y a une gradation. Sur les trois premières affirmations de la foule, qui sont des affirmations identitaires, nous n'avons jamais été esclaves, nous sommes fils d'Abraham et nous sommes fils de Dieu. Et les trois dernières affirmations de la foule, qui sont en « tu » pour accuser Jésus. « Tu as un démon, tu as un démon, tu as moins de 50 ans et tu connais Abraham. » La discussion se durcit autant du côté de la foule, qui ne veut pas entendre parler d'esclavage et qui demande à Jésus de justifier ses paroles, que du côté de Jésus, qui parle du diable, d'incrédulité et de tentative de meurtre. Le thème principal, la postérité d'Abraham, n'est pas introduit par Jésus, mais par ses interlocuteurs. À moins que Jésus ait parlé de libération pour les amener sur ce thème. Ensuite, c'est comme d'habitude, dans les conversations dans l'évangile de Jean, un enchaînement de sujets dont le Seigneur tire profit pour remettre en cause la foule. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette conversation ? Quels sont les messages que Jésus a voulu faire passer ? Le premier enseignement, c'est une autre notion de la liberté. Pour Jésus, le monde entier, l'ensemble de l'humanité, est sous l'esclavage du péché. La parole de Jésus libère ceux qui l'acceptent comme vrai. Et c'est la fameuse image de l'esclave et du fils. Dans une famille, les esclaves ne sont pas libres, par définition, puisqu'ils sont esclaves de la famille. Par contre, le fils, lui, est libre. Et donc, les esclaves ne peuvent pas s'affranchir eux-mêmes. Il n'y a que une personne de la famille qui peut affranchir les esclaves. Et le fils, lui qui est libre, peut le faire. Du coup, Jésus prend cette image pour dire que seule sa parole de fils peut libérer ceux qui l'acceptent comme vrai. Cette réalité est une très très bonne nouvelle pour ses disciples. Mais une fois encore, Jésus parle de manière spirituelle et ses auditeurs en restent au premier degré. De plus, même si on regarde leur situation terrestre, ces Juifs, quand même, ont de sérieux problèmes de mémoire. Ils ont oublié qu'ils ont été, au cours de leur histoire, plus de 4 siècles esclaves en Égypte, puis 70 ans déportés à Babylone, puis même quand ils sont revenus sur leur terre, ils ont été sous domination grecque, et enfin, à l'époque de notre passage, sous protectorat romain, avec comme roi Hérode, un roi pantin, placé là par l'empereur. Ils veulent tellement se sentir libres qu'ils se mentent à eux-mêmes en disant n'avoir jamais été esclaves de personne, et surtout plus grave, ils n'écoutent pas les paroles libératrices du Seigneur. Et finalement, c'est normal, quand on ne veut pas avouer qu'on a un problème, on refuse la solution. Le deuxième enseignement de Jésus, c'est à propos de la véritable paternité des Juifs, et c'est un enseignement vraiment, vraiment révolutionnaire. Pour eux, c'est une déclaration ultra choquante. Qui est leur père ? Et on peut s'apercevoir que c'est d'autant plus choquant que ces Juifs sont très, très fiers. Ils se réclament d'Abraham, et quand Jésus les contre, ils sont carrément fils de Dieu lui-même. Pourtant, la vérité que le maître va leur dire est aussi horrible que celle qu'entendra plus tard Luke Skywalker leur véritable père, c'est Satan, l'auteur du mal, l'instigateur du péché, le père du mensonge et le premier meurtrier. Passer de fils de Dieu à fils de Satan en 10 secondes, il faut toujours remarquer que c'est un peu violent. Nous pouvons remarquer que Jésus n'y va pas de main morte avec cette déclaration. Et on peut peut-être deviner pourquoi il fait ça. C'est que il a commencé par leur dire qu'ils étaient esclaves du péché. Mais devant leur refus de comprendre quelle est leur véritable situation, et aussi en sachant qu'ils vont carrément décider de le tuer, eh bien, Jésus passe à l'étape supérieure en disant « Vous êtes les fils du diable, puisque vous êtes des menteurs en ne regardant pas la vérité en face et en affirmant une réalité qui n'est pas la bonne. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. » Et donc, vous êtes vraiment des menteurs comme Satan. Mais en plus, vous allez essayer de tuer ce qui est bon. Vous allez travailler pour celui qui est l'ennemi de Dieu par excellence, le diable. Donc, vous êtes vraiment ses fils. Quelque chose de vraiment choquant à entendre pour des gens qui font partie du peuple de Dieu. Le troisième enseignement que nous pouvons voir dans cette conversation, c'est que Jésus est un révélateur. Quand les conditions sont favorables, tout le monde se montre sous son bonjour, les Juifs y compris. Mais dans les moments de pression, dans les moments de stress, de tension, plus personne n'arrive à cacher son véritable fond. Le Seigneur a en face de lui des gens qui trahissent l'héritage d'Abraham, qui bafoue le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il refuse d'écouter et d'obéir au Fils de Dieu lui-même. C'est le centre de l'argumentation de Jésus. À chaque fois qu'on lui dit « Mais nous sommes héritiers d'Abraham, nous sommes les fils de Dieu », il répond « Ah bon ? Pourtant, si vous étiez les héritiers d'Abraham, vous seriez contents d'écouter ce que je vous dis. Vous seriez content de me voir, parce qu'Abraham est content de me voir là où je suis. Si vous étiez les fils de Dieu, vous accepteriez mon message, parce que moi, je viens de Dieu. Je suis sur terre parce que je suis l'envoyé de mon Père. Donc, vous n'êtes pas les héritiers d'Abraham, vous n'êtes pas les fils de Dieu. » Pire, je l'ai déjà dit, mais ceux qui se déclarent fils de Dieu conspirent pour supprimer le Fils de Dieu. Face à cette réalité, comme leurs déclarations orgueilleuses sont ridicules, comme leur aveuglement est total, ils sont réellement les esclaves du diable, mais ne veulent pas en prendre conscience. Pourtant, leur rejet de Jésus est la preuve même de leur état pathétique. Et nous ne pouvons pas leur jeter la pierre, hein, parce que finalement, en leur disant cela, Jésus résume toute l'histoire de l'humanité. Hein. Ces Juifs qui sont en face de lui ne sont pas pires que les autres, même si finalement ils sont dans une situation qui est normalement plus favorable que le reste de l'humanité, même si finalement ils s'adressent au Fils de Dieu lui-même, qui dit les paroles de vérité, même s'ils sont dans le temple, le lieu même où Dieu se révèle, l'ambassade de Dieu sur terre, n'empêche qu'ils ne sont pas pires que les autres. Et donc l'enseignement de Jésus vaut pour toute l'humanité et pour tous les temps. Quels exemples pouvons-nous tirer ? Comment est-ce que Jésus s'y prend pour confondre cette foule orgueilleuse, et comment est-ce que nous pourrions faire de même? Les disciples de Jésus sont appelés à faire la même chose que leur maître. Alors comment devons-nous nous y prendre? Le premier exemple, qui est pour nous, c'est une question. Qui est ton maître? C'est la question que nous pourrions poser à tous ceux qui sont autour de nous. En effet, la plupart des gens proclament à qui veut l'entendre qu'ils sont libres et qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Mais nous, nous savons très bien, et je pense que eux aussi, que c'est totalement faux. Ils ne sont pas libres. Ils sont, comme tout le monde, sous l'emprise d'un certain conformisme. Ils sont conditionnés par leur culture, leur milieu social, leur caractère. Mais surtout, c'est le péché qui les tient sous son emprise, au travers de leurs pulsions, de leurs aspirations, et surtout, au travers de leur refus de Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, de mère en fille. Ils ont besoin d'être affranchis, libérés par Jésus. Et pour cela, il faut d'abord qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité et qu'ils se rendent compte du problème de leur orgueil. Tant de personnes se racontent des histoires pour ne pas craquer. Notre rôle à nous, c'est de leur parler de celui qui peut les libérer, qui peut les guérir, qui peut les rendre heureux. Tout le monde a un maître. Tout le monde. Alors, autant en choisir un bon. Autant choisir le meilleur. C'est Jésus, ce maître. Le deuxième exemple que nous pouvons tirer de Jésus, c'est de ne pas se laisser impressionner. Les paroles des Juifs devant Jésus sont très affirmatives et pas vraiment argumentatives, alors que celles de Jésus sont bien plus étayées. Remarquez comme Jésus les force à réfléchir et à se remettre en question, à voir la réalité. Quand nos amis en viennent à affirmer des choses péremptoires, genre « je suis libre, je m'en fous de ce que tu me dis, c'est n'importe quoi, tu te prends trop la tête, t'es dans une secte ». Quand ils disent ce genre de choses, c'est qu'ils se sentent en danger et finalement qu'ils n'ont plus rien à rétorquer. Nous devons donc les faire réfléchir, les inciter à ne pas en rester là et à expliquer ce qu'ils croient vraiment. C'est vraiment marrant comme on est souvent accusé d'être des gens qui ne réfléchissent pas, qui croient les yeux fermés en des dogmes qui viennent d'en haut, être manipulés comme ça par des gens qui nous disent quoi penser. Or, dans la réalité, quand on discute de Jésus avec des personnes, on s'aperçoit que les arguments sont de notre côté. Nous avons réfléchi à notre foi. Nous avons des arguments, nous avons une expérience pour dire que ce que nous pensons est vrai. Ou en tout cas, est plausible. Et qu'il vaut mieux y réfléchir. Et je m'aperçois souvent que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, que nous sommes dans des sectes, eux n'ont absolument jamais réfléchi à la question. Que leurs arguments sont absolument nuls. Ils n'ont pas lu grand-chose. Ils n'ont pas écouté beaucoup de gens qui ont pensé le contraire d'eux. Souvent, eh bien, ils marinent dans leur culture avec des personnes qui pensent la même chose qu'eux. Et du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de défendre ce qu'ils pensent. Ce qui, normalement, est le contraire pour nous. Ne nous laissons pas impressionner par les affirmations de ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais surtout, faisons-les réfléchir. Argumentons. Le troisième exemple que nous pouvons tirer de cette conversation, c'est qu'il ne faut pas déprimer. Ne déprimons pas. Quand on pense que des personnes qu'on aime sont prisonnières du diable, sont prisonnières d'un monstre qui leur fait gober des mensonges pour les maintenir sous son emprise, on pourrait se sentir démoralisé. Pourtant, cela doit nous motiver à prier pour ces personnes et à leur parler de Jésus en laissant le Saint-Esprit faire le reste. Jésus a gagné et il veut encore libérer un grand nombre d'esclaves par notre intermédiaire. La tâche est énorme. Nous ne faisons pas le poids, il faut bien le reconnaître. Mais nous sommes dans le bon camp. Nous connaissons la vérité et le Saint-Esprit nous aidera. Alors j'ai envie de dire, allons-y. Affirmons ce que nous croyons. Finalement, si nous avons du mal à voir une différence entre nous et les non-chrétiens, c'est parce que nous comprenons encore très mal l'Évangile et notre identité en Christ. Et à cause de cela, nous tendons à ressembler à eux, qui ont pour père le diable, plutôt que de leur témoigner de Jésus qui pourrait les libérer. Parce que je rappelle que si l'Évangile est vraiment bien vécu et proclamé, c'est eux qui finiront par nous ressembler, et pas le contraire. Alors pour conclure, restons fermes sur nos bases. Nous sommes dans le vrai. Nous avons choisi le bon maître, le bon camp. Être chrétien, c'est être un extraterrestre. C'est faire partie d'une minorité. C'est faire partie d'un autre monde, du monde d'après. Mais faisons comme Jésus et comme les apôtres après lui. Combattons le bon combat de la foi. Et j'ai envie de finir avec ces mots de l'apôtre Paul dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens de la ville de Philippe, au chapitre 2, verset 12. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Même s'il profite toujours de sa culture chrétienne, notre monde est dans les ténèbres. Alors, brillons. Brillons comme des flambeaux dans ce monde. Nous avons réellement des choses à apporter. Nous avons quelqu'un à apporter. Nous devons parler de lui. Et il s'appelle Jésus.